Coucou, c'est Victor. Comme un poisson dans l'eau, c'est un podcast indépendant, gratuit à écouter et sans publicité. Mais c'est pas gratuit à produire. Ça me demande de l'argent, mais surtout énormément de travail qui n'est pas rémunéré. Alors si vous pensez que Comme un poisson dans l'eau apporte quelque chose de positif et que vous voulez qu'on puisse continuer à déconstruire le spécisme ensemble, j'ai besoin de votre soutien. Vous pouvez aller sur la page YouTube du podcast, dont le lien est en description, et établir un don mensuel ou faire un don ponctuel. Vraiment, même 1 €, ça me fera très plaisir. Et si vous donnez tous 1 €, ou même plus, j'aurai vraiment de quoi faire grandir le podcast. Un immense merci aux tipeuses et tipeurs pour votre soutien. Et sinon, une autre super façon de soutenir le podcast, c'est de le partager sur les réseaux, d'en parler autour de vous, et de laisser des étoiles sur Apple Podcasts et Spotify. Allez, sans plus attendre, c'est parti pour l'épisode. Salut, c'est Victor Durand Le Peuch, et vous écoutez une lecture de Comme un poisson dans l'eau, le podcast contre le spécisme. Dans l'entretien de lundi dernier avec Nora Boisouni, on a parlé des liens entre spécisme et patriarcat, et même hétéro-patriarcat. Il y a en fait beaucoup de féministes qui ont théorisé ce lien. On parle parfois de féminisme vegan, ou encore d'un certain type d'écoféminisme, selon les théoriciennes et les sources théoriques auxquelles elles puisent. Une des plus connues, et qu'on a déjà mentionnée à plusieurs reprises dans le podcast, c'est Carol J. Adams. C'est elle qui a forgé le concept de référent absent, l'idée que l'animal, l'individu qui a vécu, est complètement effacé dans le processus de sa transformation en aliment, qui en fait de la viande. Il est complètement réifié, chosifié, n'est que le produit final déjà dépecé et conditionné. En général, on ne voit pas son steak comme un animal mort, sinon on n'aurait pas très envie de le manger. C'est l'occasion de vous faire découvrir ou redécouvrir un peu de l'écriture de Carol J. Adams, et surtout de vous donner envie d'aller acheter et lire ses livres. Et c'est Julia Zufferet qui vous lit des extraits de La politique sexuelle de la viande, plus particulièrement du premier chapitre de ce livre.
La politique sexuelle de la viande, une théorie critique féministe végétarienne par Carol J. Adams. Chapitre 1. La politique sexuelle de la viande. Le règne de la viande. En temps de guerre, la politique gouvernementale sur le rationnement réserve le droit à la viande à l'incarnation même de l'homme mâle, le soldat. Alors que le rationnement de la viande s'appliquait à la population civile pendant la Seconde Guerre mondiale, la consommation carnée dans l'armée et la marine atteignit environ 2,5 fois celle de chaque individu moyen ne faisant pas partie des troupes. Russell Baker remarqua que la Seconde Guerre mondiale déclencha une « folie du bœuf » où chaque soldat américain putatif fut gavé à la riche chair de bœuf engraissé. À l'inverse des livres de cuisine à l'intention de la population civile qui chantaient les louanges des glucides complexes, ceux destinés aux soldats renfermaient maintes variantes de plats carnés. Un sondage effectué dans 4 camps d'entraînement militaire révéla qu'un soldat consommait quotidiennement 131 g de protéines, 201 g de lipides et 484 g de glucides. Les coûts cachés de la masculinité belliqueuse se trouvaient dans l'attribution aux guerriers d'aliments définis comme masculins. Ce sont les femmes qui préparent la nourriture. La viande doit subir une cuisson pour qu'on la considère comme appétissante. Ainsi, dans une culture patriarcale, de même que notre culture accepte les « besoins » de ses soldats, les femmes se soumettent aux exigences alimentaires de leurs époux, particulièrement en ce qui a trait à la viande. Les féministes qui étudièrent les budgets de femmes au début du XXe siècle constatèrent qu'il est fort probable qu'une personne possédant force, sagesse et vitalité, ne menant pas cette existence dans ces pièces minuscules et bondées où la lumière et l'air manquent, ne se trouvant pas écrasée d'inquiétude, mais étant elle-même financièrement indépendante de l'homme qui gagne l'argent du ménage, pourrait employer les quelques shillings de celui-ci pour se procurer des aliments d'une valeur scientifique bien supérieure. Il est cependant tout aussi possible que l'homme qui gagne cet argent refuse absolument ces aliments scientifiques et exige le hareng et la viande auxquels il est accoutumé. Une discussion concernant l'alimentation en temps de guerre incluait cette parenthèse. C'était une chose, admire-t-elle, de démontrer qu'il existait de nombreuses solutions de rechange viables à la chair, mais c'en est une autre de convaincre un homme qui aime manger son steak. La prérogative mâle de consommer de la viande constitue une activité externe observable qui reflète implicitement un fait récurrent. La viande est un symbole de domination masculine. On a toujours considéré qu'un travailleur a besoin de viande pour en tirer sa vigueur. Une superstition exploite cette croyance. En consommant les muscles d'un animal puissant, nous accroîtrons notre propre force physique. Dans la mythologie de la culture patriarcale, la viande alimente la vigueur. On acquiert les attributs de la masculinité en se sustentant de ces nourritures masculines. C'est à cause de ce parallèle que des images de joueurs de football, de lutteurs et de boxeurs mangeurs de chair encombrent notre cerveau. Bien que des haltérophiles et des athlètes d'autres disciplines végétariens aient démontré l'inexactitude de cette analogie, le mythe demeure. Les hommes sont puissants, les hommes doivent être puissants, les hommes ont donc besoin de viande. Le concept de la viande incarne une évocation littérale du pouvoir masculin. La viande règne en souverain. Ce nom qui décrit la chair dénote le pouvoir masculin. Le mot « légume », un terme générique employé par les consommateurs de viande pour désigner tous les aliments autres que la chair, se trouve maintenant relié aussi étroitement aux femmes que la viande aux hommes, rappelant inconsciemment l'époque de la femme cueilleuse. Les femmes furent reléguées à un rôle secondaire dans un monde carnivore dominé par les mâles, et il en fut de même pour notre nourriture. Les aliments associés aux citoyens de seconde zone sont perçus comme des protéines de deuxième ordre. Tout comme on croit qu'une femme ne peut pas se tirer d'affaire toute seule, on pense que des légumes sans accompagnement ne composent pas un repas, en dépit du fait que la viande ne soit que des légumes par voie indirecte et que les légumes procurent en moyenne plus du double des vitamines et des minéraux contenus dans la viande. Le message est clair. L'humble légume devrait se contenter de la place qui lui a été assignée et ne pas tenter de mettre fin au règne de la chair. Après tout, comment asseoir des aliments féminins sur un trône alors qu'une femme ne peut pas être roi ? Le langage mâle de la consommation de la viande. Les hommes qui décident de s'abstenir de viande sont jugés comme efféminés. La non-consommation de chair de la part d'hommes proclame leur absence de masculinité. Le nutritionniste Jean Mayer a constaté que plus les hommes demeurent assis derrière un bureau toute la journée, plus ils veulent être rassurés quant à leur masculinité à travers la consommation de ces immenses pièces de viande sanguignolantes qui constituent le dernier symbole du machisme. Le regretté Marty Feldman a déclaré « C'est relié à la fonction du mâle dans notre société. Les joueurs de football boivent de la bière parce que c'est une boisson d'homme et mangent de la viande parce que c'est un repas d'homme. L'accent est mis sur les portions pour hommes, les hero sandwiches, sandwich de héros, sandwich new-yorkais fait à partir d'une baguette. Toute la terminologie de la consommation de viande reflète ce parti pris masculin. Les hommes qui se nourrissent de viande et de pommes de terre incarnent le stéréotype du mâle fort, vigoureux, rustique et compétent. On appelle un riche ragoût de bœuf « manhandler », malmeneur. Le légendaire entraîneur en chef de football Mike Ditka exploita pendant un temps un restaurant dont le menu se composait de « plats pour les vrais mâles », comme des steaks et des côtelettes. La masculinité d'un individu est confortée par les aliments qu'il consomme. Lorsqu'en 1955, la mère de Caroline Steedman prépara une salade de légumes râpés pour le repas de Noël, son mari quitta la maison. Le légume, symbole de passivité féminine ? Les termes « homme » et « viande » ont tous les deux subi un rétrécissement de leur signification lexicographique. Employés à l'origine de façon générique, ils sont maintenant étroitement associés à leurs référents respectifs. « Viande » ne désigne plus toute nourriture, de même que le mot « homme » n'inclut plus les femmes. D'après l'American Heritage Dictionary, le mot anglais « meat » viande, représente l'essence ou la part principale de quelque chose. On dira donc « the meat of the matter » et « a meaty question », le vif du sujet et une question substantielle. « To beef up quelque chose », lui « donner du bœuf », signifie « l'améliorer ». Par contre, « vegetable », légumes, incarne les caractéristiques les moins désirables, suggérant ou semblable à un légume, menant une existence passive ou ennuyeuse, monotone, inactif. La viande est quelque chose que l'on apprécie ou à laquelle on excelle. Le légume représente quelqu'un qui n'apprécie rien, une personne menant une existence monotone, passive ou simplement physique. La définition du mot « vegetable » a subi un revirement complet. Alors qu'à l'origine, il voulait dire « vivant », « actif », il est maintenant perçu comme ennuyeux, monotone, passif. Végéter, c'est mener une existence passive, tout comme la féminité implique une existence passive. Dès que les légumes sont vus comme des aliments réservés aux femmes, on les considère par association comme féminins, passifs. Le besoin qu'éprouvent les hommes de se dissocier de la nourriture féminine, comme dans le mythe où le dernier Bochiman s'enfuit dans la direction opposée à celle des femmes et de leurs aliments végétaux, s'est institutionnalisé au cœur des attitudes sexistes envers les légumes et de l'emploi du mot « légume » pour exprimer critique ou dédain. Il s'agit d'ailleurs d'un terme commun pour désigner une personne ayant subi d'importantes lésions au cerveau ou se trouvant dans un état comateux. On pense également que les légumes exercent un effet tranquillisant, abrutissant, engourdissant sur les gens qui en consomment et qu'on ne peut donc en tirer aucune énergie. Si on en croit cette incarnation pervertie de la théorie de Brillat-Savarin, voulant que nous soyons ce que nous mangeons, consommer un légume équivaut à devenir un légume, et par extension, semblable à une femme. Ce dédain patriarcal pour les légumes peut être illustré par des exemples tirés de la campagne présidentielle américaine de 1988, au cours de laquelle chaque candidat fut dénigré à coups de comparaison avec des légumes. Michael Dukakis reçut le nom de « The Vegetable Plate Candidate », le candidat plateau de crudité. Northern Sun Merchandising mis sur le marché des chandails posant la question « George Bush, vegetable or noxious weed ?» traduit « George Bush, légume ou mauvaise herbe ?» On pouvait se procurer un chandail illustré d'une bouteille de ketchup et d'une photo de Ronald Reagan avec le slogan « Nutrition Quiz, which one is a vegetable ?» Quiz sur la nutrition, lequel est un légume ? Le mot « légume » fait office de synonyme pour la passivité des femmes, car celles-ci sont censées ressembler à des plantes. Hegel l'exprime clairement. La différence qu'il y a entre l'homme et la femme est celle qu'il y a entre l'animal et la plante. L'animal correspond davantage au tempérament masculin, la plante davantage à celui de la femme, car la femme a davantage un développement paisible. De ce point de vue, les femmes comme les plantes sont perçues comme moins développées et moins évoluées que les hommes et les animaux. Les femmes se nourrissent donc de plantes, puisqu'elles sont toutes de paisibles, mais les hommes actifs ont besoin de chair animale. La viande, symbole du patriarcat. Dans son essai intitulé « Deciphering a Meal », l'éminente anthropologue Mary Douglas suggère que l'ordre dans lequel nous servons les plats et les aliments dont nous réclamons la présence sur notre table reflète une taxonomie de classification qui renvoie l'image de notre culture au sens large et vient la renforcer. Tout repas se compose d'un ensemble de plats, chacun constituant une partie du tout et possédant une valeur attribuée. En outre, chaque plat fait son apparition sur la table dans un ordre précis. Le repas ne s'ouvre pas avec le dessert et ne se conclut pas avec la soupe. Chaque élément est perçu comme précédant le plat principal, c'est-à-dire la viande, ou lui succédant. Ce schème constitue une preuve de stabilité. Comme l'explique Douglas, le système ordonné que forme un repas incarne l'ensemble des systèmes ordonnés qui y sont associés. D'où le remarquable pouvoir de provocation d'une menace qui vise à affaiblir ou à brouiller cette catégorie. Éliminer la chair revient à menacer la structure de la culture patriarcale au sens le plus large. Marabel Morgan, une experte des méthodes que devraient employer les femmes pour se soumettre à tous les désirs masculins, nous avertit dans son livre « Les recettes de la femme totale ». Il faut agir prudemment lorsqu'on introduit des ingrédients perçus comme une menace. Je m'aperçus que Charlie semblait redouter certains aliments. Il jetait un regard soupçonneux dans mes casseroles, comme s'il craignait que j'y eût glissé clandestinement quelques grains ou plantes trop originales pour ses goûts plutôt classiques. Dans son roman « Les oiseaux d'Amérique », Mary McCarthy illustre par la fiction l'aspect intimidant pour un homme que peut avoir le refus de la viande par une femme. Miss Scott, une végétarienne, est invitée au domicile d'un général de l'OTAN pour Thanksgiving. Elle décline une part de dinde, provoquant ainsi la colère du général. Ne pouvant prendre ce refus au sérieux, puisque la domination masculine exige son rappel perpétuel dans chaque plat, le général remplit de dinde l'assiette de la jeune femme, puis recouvre de sauce les pommes de terre et la viande, en faisant ainsi une assiette profanée. La description par McCarthy des actions du général vis-à-vis de la nourriture reflète les coutumes guerrières associées aux batailles militaires. Il avait brandi la saucière comme une arme meurtrière dans un combat à main nue. Pas étonnant qu'on l'ait promu général de brigade. Voilà, du moins, un mystère d'éclaircie. Le général persiste dans son comportement belliqueux et propose, après dîner, un toast en l'honneur d'un jeune homme de 18 ans qui s'est enrôlé pour aller combattre au Vietnam. Au cours de la querelle qui s'ensuit au sujet de la guerre, le général défend le bombardement du Vietnam par une question rhétorique. Qu'y a-t-il de si sacré chez un civil ? Ceci fâche le héros, forçant l'épouse du général à présenter ses excuses pour le comportement de son mari. Entre nous, c'est de voir cette fille refuser la nourriture qu'il a mis hors de lui. Je m'en suis aperçu tout de suite. L'attitude belliqueuse des hommes dans un tel contexte ne se limite pas aux militaires des œuvres de fiction. Les batteurs de femmes ont souvent employé l'absence de viande comme prétexte pour leurs gestes brutaux. Ce n'est pas le fait que les femmes ne servent pas de chair qui constitue le motif de la violence perpétrée à leur endroit. Les hommes dominateurs l'utilisent, comme ils le font d'autres facteurs, à titre d'excuse pour leur violence. Mais puisque les vrais hommes mangent de la viande, les agresseurs disposent d'un symbole culturel duquel tirer parti afin de détourner l'attention de leurs besoins de contrôle. Comme le raconte une femme battue par son mari. Tout commençait quand il se fâchait au sujet de petites choses insignifiantes. Une petite chose comme du fromage au lieu de la viande dans un sandwich. Une autre femme décrit son expérience. « Voilà un mois, il a ébouillanté mon bras droit qui en porte maintenant la cicatrice. Je lui avais préparé un gratin de légumes et non pas de la viande. » En devenant végétarien, les hommes s'opposent à un élément essentiel du rôle masculin. Ils optent pour les aliments féminins. Comment peuvent-ils oser faire cela ? Un homme qui refuse la viande est efféminé, une tapette, un PD. En effet, en 1836, la réaction au régime végétarien de l'époque, appelé grahamisme, dénonçait que l'émasculation est le premier fruit du grahamisme. Les hommes qui choisissent de ne pas consommer de chair renoncent à un de leurs privilèges masculins. Le New York Times a exploré cette idée dans un éditorial concernant la nature masculine de la consommation carnée. Le « type à la John Wayne », personnification du mâle mangeur de chair, a cédé sa place à un nouveau héros populaire plus vulnérable, comme Alan Alda, Mikhail Baryshnikov ou Phil Donahue, respectivement acteur, danseur et chorégraphe et animateur de télévision. Ils mangent peut-être des poissons morts et des carcasses de poulet, mais pas de viande rouge. Certains hommes, par exemple Alda et Donahue, ont rejeté non seulement le rôle du macho, mais aussi la nourriture macho. Le Times concluait « Croyez-moi, la mort du machisme marque aussi la fin de l'homme qui se nourrit de viande et de pommes de terre. Ni l'un ni l'autre ne nous manquera. » Épilogue. Le discours dominant, qui approuve la consommation de la viande, nous oblige à saisir la réalité, c'est-à-dire le fait que nous mangeons des animaux morts, puis à accepter, à ignorer, à neutraliser et à réprimer cette réalité. Que nous en coûte-t-il ? Quelles sont les implications de réprimer les réalités sur le référent absent dont la mort nous permet de manger de la chair? Au sein d'une culture patriarcale, les femmes doivent encore faire face à d'autres problèmes. Nous avons été englouties et nous engloutissons de notre côté. Nous sommes consommatrices et consommées. Nous sommes celles dont l'estomac n'entend rien, puisqu'il est dépourvu d'oreilles, et celles qui cherchent à être entendues depuis l'intérieur de cet estomac sans oreilles. Manger des animaux reflète et représente les valeurs du patriarcat. La consommation de viande réinscrit le pouvoir masculin à chaque repas. Le regard du patriarcat ne perçoit pas des morceaux d'animaux morts, mais des plats alléchants. Si notre appétit réinscrit l'ordre patriarcal, nos gestes face à la consommation d'animaux viennent soit incarner, soit remettre en cause cette culture dominante. Lorsque la chair constitue un symbole de la domination masculine, la présence de viande proclame l'impuissance des femmes. Nous consommons sans cesse des mères. En mangeant des morceaux de chair identifiés comme féminins, nous proclamons et nous renforçons le triomphe de la domination masculine. Kate Millett a observé que toutes les avenues conduisant au pouvoir sont dominées par les hommes. Ceci inclut le pouvoir que nous sommes persuadés d'absorber à partir de victimes mortes et encore saignantes. La viande consiste en rapport de force où l'énergie serait transférée à la personne qui la consomme. L'idée de la chair qui transmet la force physique dérive de cette puissance symbolique. La viande se fait le reflet du pouvoir masculin chaque fois qu'elle est consommée. La puissance imaginaire absorbée par le vainqueur s'écoule des êtres féminins symboliquement vaincus. Ainsi, la viande se trouve à la fois animalisée et masculinisée. Il nous faut analyser les codes que renferment les textes de la viande. Cet examen ne peut pas prendre place en présence de la viande, car celle-ci concrétise tous les anciens codes. Nous devons accepter que les plaisirs des repas que nous connaissons seront abolis. Ce qui nous attend, c'est la découverte des plaisirs de la cuisine végane. Pour dire adieu à la chair, la première étape consiste à nommer et à percevoir le référent absent, redonnant ainsi à l'animal son existence individuelle. Nous devons remettre nos propres appétits en question pour nous demander si nous désirons en être dépendants et dépendantes. Nous voyons l'importance de ces appétits dans l'ordre patriarcal symbolique et comment ils pourront soit l'accepter, soit le contester.
Voilà, ainsi s'achève la première saison de Comme un poisson dans l'eau. Première, mais pas la dernière, car j'ai déjà commencé à préparer la prochaine. Et je vous promets toujours plus d'invités extraordinaires et de sujets importants dans la compréhension et la lutte contre le spécisme. Et prochain rendez-vous, parce que sinon c'est long tout un été sans se parler, je vous prépare pour bientôt un épisode spécial. Si vous en avez marre d'entendre toujours les mêmes arguments bidons contre le véganisme, « Ah mais la viande c'est bon, on est des carnivores, on a toujours fait comme ça, oui mais les carences... » Moi perso j'en ai marre, alors je vous propose un épisode avec tous les arguments contre le véganisme que je trouve les plus intéressants et stimulants. J'ai bien dit contre le véganisme. On verra si le véganisme est KO à la fin. Mais ne vous en faites pas, face à moi qui essaierai de me faire l'avocat du spéciste carniste, il y aura une personne de qualité et une réflexion passionnante. Voilà. J'espère que vous avez hâte. S'il y a des gens qui ont tenu toute la saison sans être convaincus par les arguments antispécistes, eh bah peut-être que vous avez raison, qui sait. En attendant, vous pouvez continuer à faire vivre et même propulser le podcast en l'envoyant à vos amis, en le recommandant sur les réseaux sociaux et en laissant 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify. Vraiment, ça fait toute la différence. Et c'est vous qui, grâce à tout ça, avez fait exister comme un poisson dans l'eau cette année. On se retrouve très vite. Bisous les poissons.